Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?». C'est la première émission de cette nouvelle année, donc j'en profite pour souhaiter tous mes vœux de santé d'abord et de prospérité à l'ensemble de nos auditeurs. Et pour démarrer cette nouvelle saison de l'année, nous avons choisi d'aborder la question de la présence française dans le Sahel et en particulier des inquiétudes exprimées par de nombreux acteurs. Beaucoup de spécialistes disent que c'est l'année de tous les dangers pour la France et on a souhaité entendre plusieurs invités sur cette thématique et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Bockel qui est notre premier invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et tous mes vœux à vous également. Je rappelle que vous êtes sénateur du Haut-Rhin, ancien ministre et peut-être toujours président de l'association Solidarité Défense.
C'est cela.
Et donc vous avez toujours été très impliqué dans les questions de défense. Et vous connaissez bien, et vous avez été aussi touché personnellement par ce qui s'est passé au Mali, où je rappelle qu'il y a 55 Français qui sont tombés dans le cadre des opérations militaires menées par la France depuis 2013. Et c'est vrai que vous avez vous-même exprimé des interrogations, puisque il y a quelques mois, au moment où le gouvernement français a annoncé le redéploiement, la fin de... dispositif Barkhane et son redéploiement, vous aviez craint une improvisation et les conséquences de ce retrait qui, disiez-vous, ne devait pas être improvisé.
Oui, enfin, j'avais à l'époque souhaité que le redéploiement se passe en bon ordre et je n'avais pas douté de la capacité de l'armée française à le faire de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs bien ce qui est en train de se passer. Donc, le terme d'improvisation ne visait pas l'institution militaire française, mais je ne récuse pas ce mot, car mon souci déjà à l'époque, et depuis que je m'intéresse, et ça fait de nombreuses années, à la situation dans la région, et particulièrement évidemment au Mali, qui est aujourd'hui très déstabilisé, c'est que on ne conserve pas dans la relation avec ces pays, et ça, évidemment, il faut être deux. L'approche d'ensemble sans laquelle aucune sortie n'est possible et aucune fin de crise n'est possible, à savoir le triptyque sécurité, évidemment, qui est premier, d'où l'intervention de 2013, que je remets évidemment pas en cause en ce qui me concerne, le triptyque sécurité, gouvernance, bonne gouvernance, hein. Car évidemment, tout relève de décisions politiques qui sont prises ou pas prises. Et le troisième élément de ce triptyque, c'est bien sûr le développement au service des populations, que l'économie reparte, que la jeunesse voit à nouveau un avenir dans leur propre pays, plutôt que de n'avoir comme seul objectif pour beaucoup l'émigration, hein, avec tous les dangers que cela comporte et les problèmes que cela crée, ou pour... une minorité, le basculement vers le djihadisme. Donc là, si vous voulez, évidemment, il y a encore quelques temps, disons peut-être il y a 2 ans, je faisais preuve d'un certain optimisme, après notamment le sommet de Pau du G5 Sahel, où là, au niveau des paroles, hein, que ce soit bien sûr celle du président français, mais aussi celle des chefs d'État africains qui étaient présents. J'avais été présent d'ailleurs à Pau. Tout le monde était d'accord pour dire que il devait y avoir cette vision d'ensemble et que des efforts seraient faits, avec bien sûr le soutien de la France, de l'Europe, de la communauté internationale, pour reconstruire les armées, c'est-à-dire permettre progressivement à ces pays d'assurer leur propre sécurité, bien sûr avec des soutiens, des partenariats, mais sous leur autorité. Hein, et puis aussi, bien entendu, qu'on retrouve une présence de l'État. La gouvernance, c'est d'abord aujourd'hui au Mali, c'est dans 90% du pays, au niveau des fonctions régaliennes, hein, les préfets, l'administration, l'école, etc. L'État n'est plus là. Hein. Donc, trop d'État, c'est peut-être pas bien, hein, comme on le voit dans certains pays européens comme la France, mais pas d'État, c'est pire que tout. Mais ça suppose une volonté. Parce que la question des moyens, hein, et je ne veux pas être trop long dans cette première réponse à votre question, mais la question des moyens, elle existe, et les moyens sont là. Et aujourd'hui, au Sahel, avec les fonds européens, hein, que ce soit en matière sécuritaire, formation, économie, soutien aux entreprises, éducation, les fonds bilatéraux de différents pays, européens ou autres, sont extrêmement importants. Il faut savoir simplement bien les utiliser. Je vous donne un exemple sur le développement. Hein. Nous avons un outil français d'excellence qui s'appelle l'Agence française de développement, qui a accepté d'ailleurs, à la demande des autorités françaises, de s'adapter à cette situation très particulière où il faut arriver en quelque sorte à soutenir des actions de développement économique au moment et pas deux ou trois mois après où au fur et à mesure on rétablit la sécurité parce que les militaires le disent. Nous on fait notre travail, mais après s'il se passe rien, ça ne sert à rien. Et donc au fond les partenaires étaient prêts, les moyens existaient, les équipes étaient mobilisées, parfois c'était compliqué parce que il n'est plus possible d'aller pour des Européens, par exemple, des Occidentaux, dans la plupart des régions du Mali, pour prendre cet exemple, hein, ce serait beaucoup trop dangereux, les risques d'enlèvement, d'attaque, etc., seraient trop importants. Et donc, c'était en s'appuyant sur des ONG locales, hein, qui sont nombreuses et souvent vivantes, de qualité, etc. Mais donc, les moyens existent, simplement. Il y a eu ces deux coups d'État successifs, d'une part. Il y a eu la fragilisation de la zone des trois frontières. Tout ça, ça a favorisé des avancées du djihadisme. Il y a eu enfin toute une série également de dérives populistes, hein, où la France a été montrée du doigt. C'est vrai, nous le savons, qu'une occupation qui dure un certain temps, très bien perçue au début, parce que c'est une libération, peu à peu, évidemment, est moins bien perçue, et bien sûr, prête le flanc, hein, à toutes les manipulations. Et au Mali, on peut dire qu'elles n'ont pas manqué. Donc nous sommes aujourd'hui effectivement dans une grande difficulté. Et voilà ce que je peux dire comme réponse à votre première question.
Alors, beaucoup d'analystes sont partagés sur le bilan de l'opération Barkhane. Il y a ceux qui disent que bien le bilan n'est pas bon parce que notamment le nombre d'attaques terroristes a atteint son niveau le plus élevé l'année dernière, en 2021, alors que vous l'avez dit, la première mission c'était d'essayer de rétablir la sécurité qui ensuite permet de générer la croissance et une bonne gouvernance. Et en même temps, il y a aussi des gens qui disent oui, mais la France s'en allant, le vide laissé sera difficile à combler compte tenu notamment de la situation politique qui est toujours très instable au Mali, et aussi parce qu'on n'est pas certain que le G5 Sahel, l'Union européenne et l'ONU, eh bien, soient au rendez-vous, notamment bien d'une présence militaire qui permette de garantir une sécurité dans ce pays.
Oui, vous mettez en effet toutes les questions sur la table. D'abord, mon sentiment, mon opinion, c'est que Barkhane, du point de vue militaire et sécuritaire, a été et encore une réussite. C'est-à-dire que le travail des militaires, que ce soit les militaires français ou les partenariats, chaque fois que c'est possible, avec les armées du G5 Sahel, y compris d'ailleurs un certain nombre d'éléments de l'armée malienne, hein, qui sont des éléments à nouveau reconstitués, solides, soldés, bien commandés, hein, ça existe aussi. Donc ce travail, il est fait et il est bien fait, sauf que, comme le disent les militaires eux-mêmes, il faut que ça suive derrière. Et il faut que le travail que l'on fait sur le terrain, hein, pour faire reculer les ennemis, hein, eh bien, puisse être relayé ensuite par à la fois la gouvernance locale, hein, et puis le basculement effectivement vers des forces de sécurité. Et là, je vais vous dire, en fait, là aussi, le chemin est étroit. Parce que chaque fois qu'il y aura des partenaires prêts à prendre le relais de ce qui se fait dans le cadre de Barkhane, les partenaires de Barkhane et tous les autres partenaires de la communauté internationale seront présents avec des moyens importants. Simplement, il faut qu'il y ait du côté des responsables, à tout niveau des pays concernés, une volonté. C'est le cas au Niger. Il y a beaucoup de problèmes au Niger. C'est un pays pauvre, c'est un pays qui souffre de tous les maux du Sahel, avec en plus une surpopulation très importante. C'est un pays qui a beaucoup de problèmes, qui est aussi touché à ses frontières, nous le savons. Il y a eu plusieurs fois des attaques terribles, etc. Il y a aussi... Mais les responsables politiques, à l'heure où je vous parle, et dans un contexte qui n'est pas facile pour eux, se comportent comme des partenaires. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la France est en train de renforcer la présence de Barkhane sur Niamey, etc. Au Tchad, il y a également, il y a maintenant une nouvelle gouvernance avec le nouveau président, Déby. On a quand même des échos à bien des égards encourageants. En tout cas, sur les enjeux qui sont les nôtres. Après, chaque pays a sa logique propre, sa marche vers la démocratie, ses problèmes. Nous n'avons pas vocation, nous, à nous mêler tout et à tout régler. Mais c'est un partenaire. Le Burkina Faso est un pays fragile, très fragile. On est très inquiet. Mais il y a néanmoins des éléments de bonne volonté. Il y a un potentiel de développement qui existe. Le pire n'est pas certain. La Mauritanie, pour citer l'ensemble des pays, j'étais en Mauritanie mi-décembre, tiens bon, et ça maintenant je dirais dans la durée, sur le plan sécuritaire, tout le monde ne sait pas qu'il y a des flux touristiques d'ailleurs, ce sont des initiatives françaises, franco-mauritaniennes qui en sont à l'origine, il y a des flux touristiques qui se sont rétablis, qui se poursuivent, j'en ai été le témoin dans un bref aller-retour, dans le désert, dans la région d'Atar, etc., à l'initiative notamment du Point Afrique, etc., c'est aussi la réalité, quoi. Le G5 Sahel, ce sont des points forts et des points faibles, des maillons forts et des maillons faibles. Donc tout le travail va être dans les prochains temps d'essayer d'avoir dans le cadre d'un dialogue naturellement le meilleur maillage possible, mais ça suppose que côté malien, la dérive que nous vivons à l'heure actuelle, une sorte de fuite en avant, un discours anti-français, véhiculé souvent par les plus hautes autorités, une dérive populiste qui place la France en bouc émissaire. On se demande comment tout cela va se finir, alors qu'au Mali, il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup de gens très valables. Moi, j'ai énormément d'amis au Mali, des Maliens qui sont dans l'économie, qui sont dans le sécuritaire, qui sont même dans l'appareil d'État. Il y a des gens de très grande qualité, mais le dialogue était compliqué il y a encore un ou deux ans, mais il existait. Aujourd'hui, il est devenu très compliqué. Donc là, il y a vraiment un problème qui dépend des responsables de ce pays, quoi. Et c'est vraiment un... moi, je souhaiterais tellement, moi qui ai connu ce pays avec tellement d'espérance, avec tellement de projets de développement, avec des partenariats multiples, avec les collectivités françaises, avec une jeunesse qui avait de l'espoir dans l'avenir. Bien sûr, il y avait déjà des tas de problèmes, mais même dans le Nord, il y avait des éléments de dialogue, des accords qui étaient trouvés après des périodes de guerre civile, mais tout ça a été surmonté. Enfin, c'était pas l'Afghanistan. Il ne faudrait pas que ça le devienne.
Alors justement, dans les derniers temps, le pouvoir en place au Mali a décidé de faire appel à la société russe Wagner et donc à des mercenaires qui sont déjà à l'œuvre dans des pays, y compris dans la région, par exemple en Libye ou en République de Centrafrique. Comment est-ce que vous interprétez ça? Ça fait partie de la fuite en avant que vous décrivez? Est-ce que c'est justement, on souhaite se couper des partenaires historiques comme la France et donc on fait appel à des armées privées, on recrute des mercenaires pour remplacer des soldats qui étaient des soldats alliés, mais maintenant on veut les écarter, on les menace presque, on les injurie, et donc on veut les remplacer par d'autres forces.
Je ferai un distinguo, si vous voulez, entre un certain nombre de puissances, dont la Russie, qui veulent, il n'y a pas que la Russie, il y a la Turquie, il y a un certain nombre de pays qui veulent avoir leur place, comme le Maroc, etc., qui veulent avoir leur place en Afrique subsaharienne, je ne parle même pas des Chinois. Ça, c'est une chose, et au fond, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je sais pas à tenir un propos anti-russe. Une autre chose est, comment vous dire ça, comment vous dire les choses, les mercenaires de Wagner, qui sont ce qu'ils sont, on voit ça en Centrafrique, ils viennent en tant que tels quand on leur demande de venir. Mmh. Ils ne viennent pas subrepticement.
Ah non, absolument. C'est le pouvoir en place.
Le problème, c'est, de mon point de vue, ceux qui font une telle demande. Et je pousse un peu plus loin le raisonnement. Est-ce qu'ils font cette demande pour contribuer à la sécurité du Mali, prenant conscience qu'ils n'ont pas su reconstruire leurs propres forces de sécurité malgré les soutiens qu'ils avaient pour cela, et avec l'idée aussi de peut-être se passer du soutien et de la présence française? Mais Wagner, c'est pas la réponse à ça. Wagner, vous l'avez dit à l'instant, c'est tout au plus 1000 personnes. Alors, c'est 1000 personnes, mercenaires, bien entraînées, capables, effectivement, de mener un certain nombre d'actions. Mais c'est pas avec 1000 mercenaires de Wagner qu'on rétablit la sécurité par rapport à toutes les menaces que l'on connaît dans un vaste pays comme le Mali. Donc, certaines mauvaises langues vont jusqu'à dire que ces gens-là sont appelés et s'installent progressivement pour assurer la sécurité des dirigeants par rapport à l'instabilité et au mécontentement auquel ils voient bien qu'ils sont et qu'ils sont de plus en plus confrontés.
Une sorte de milice privée.
Allô ?
Une sorte de milice privée, en quelque sorte.
Bah, écoutez, je vous laisse employer vos mots.
Oui.
En tout cas, si vous voulez, si on va vers ça, c'est doublement critiquable. D'abord, faire appel à une milice, je trouve que c'est pas forcément très honorable, surtout quand on voit les résultats dans des pays comme la Centrafrique. Je suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour les habitants de ce pays d'avoir d'être sous la coupe de ce type de milice. Et deuxièmement, en plus, ça n'est même pas, ça ne servira même pas la cause de la sécurité du pays, mais peut-être juste de la sécurité de quelques-uns. Donc tout ça me paraît quand même à la fois difficile à comprendre du point de vue de l'intérêt des pays concernés, notamment du Mali, quand même très critiquable et très problématique, et ça augure pas bien de l'avenir. Mais encore une fois, moi, mon propos n'est pas un propos anti-russe. Chaque pays essaye de défendre ses intérêts avec les méthodes qui sont les siens. Mon propos, c'est plutôt l'expression d'une grande déception par rapport à des responsables maliens que jusqu'à récemment je connaissais bien, avec qui je dialoguais sans porter de jugement, et en faisant la part des choses devant la difficulté de l'exercice qui est le leur. Là, on est avec des responsables avec lesquels le dialogue est devenu, je le répète, et moi je ne suis pas les autorités françaises, mais je sais que c'est le cas pour les autorités françaises, est devenu extrêmement difficile, et rien n'est encore définitivement perdu. On peut rétablir le contact, on peut retrouver la voie de la sagesse, de l'intérêt bien compris du Mali, mais il est plus qu'urgent. Et l'appel à ces mercenaires ne me paraît pas être, en tout cas, du point de vue du Mali. Je ne parle même pas du point de vue de la France.
Du point de vue de l'intérêt du pays.
L'influence de la France, la bonne voie.
Merci beaucoup Jean-Marie Bockel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien sénateur du Haut-Rhin, ancien ministre, président de l'association Solidarité Défense, et vous avez en connaisseur à la fois des questions de l'Afrique, on l'a vu, mais aussi des questions de défense, répondu à nos questions, et on vous remercie en ce début d'année, et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
C'est avec plaisir, au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission Et si on en parlait, une émission consacrée à la situation au Sahel, année de tous les dangers pour la France, qui il y a quelques mois a annoncé la fin programmée de l'opération Barkhane et le redéploiement de ses forces dans la région. Beaucoup de questions liées à la stabilisation de cette région, de la région sahélienne. Est-ce que l'intervention française a atteint ses objectifs? Pour répondre à nos questions dans cette deuxième partie d'émission, nous recevons Olivier Vallée. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste et auteur bien de nombreux articles sur la situation en Afrique, spécialiste de l'Afrique, notamment dans la revue Le Grand Continent. J'ai envie de vous poser une première question de votre point de vue, vous qui connaissez bien cette région du Sahel et les conflits. Est-ce que l'intervention française a atteint ses objectifs ou une partie de ses objectifs? Le bilan est-il positif ou bien est-ce qu'au contraire on est dans une situation qui est plus instable et plus compliquée que jamais, notamment sur le plan sécuritaire?
Du point de vue du début de l'intervention française au Sahel, qui doit être rappelé, c'est une première opération qui s'appelle Serval,
2013,
déclenchée par François Hollande, et dont la première vocation est d'arrêter la descente de troupes, plutôt de groupes armés qui viennent du nord Mali et qui pourraient arriver vers la capitale, Bamako. Et cette opération Serval est une opération assez lourde, qui a été longuement préparée et qui va donner des succès, qui sont des succès appréciables et qui rendent d'ailleurs la présence des troupes françaises relativement populaire au Mali, et qui fait penser aux autres pays qui pourraient être menacés qu'une intervention française est finalement une forme de bouclier en cas de situation véritablement critique. En fait, Barkhane ne va pas réussir à rééditer les exploits de Serval pour des tas de raisons, en particulier avec un terrain d'opération qui est un théâtre d'opération qui est beaucoup plus vaste, et ensuite avec un changement complet de stratégie et de tactique de la part des groupes armés, et aussi avec on pourrait dire une dérivation de tout l'affrontement central entre l'armée nationale et des groupes armés, qui va passer à des opérations faites par des milices, des groupes armés qui sont eux-mêmes des dissidents de première mouvance, comme les mouvances Touareg. Et donc on assiste en fait à une fragmentation du terrain, et donc dans ce cas-là, les objectifs n'existent plus vraiment, de la même façon que la ligne de front se dissout complètement.
Quel est le bilan que vous faites également de cette tentative de créer un réseau des États les plus menacés, on va dire, par le djihadisme et par un certain nombre de conflits armés?
Du point de vue institutionnel, il y a eu bien entendu la formation du G5, avec un secrétariat du G5 installé à Bruxelles, avec la formation également d'une coordination des institutions financières, qu'on pourrait appeler les institutions financières habituelles du développement, la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne, qui à travers Alliance vont essayer de générer des fonds pour aider les pays du G5 que je vais citer, la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, de façon à aider ces pays à marcher sur un triptyque défense, développement, diplomatie. C'est une belle formule, mais c'est une belle formule qui va pas marcher, parce qu'en matière diplomatique, si on entend la diplomatie comme une position commune soit pour arrêter la guerre, soit pour la poursuivre. Aucun des cinq États africains que j'ai cités n'a la même conception de la négociation ou de la guerre avec les groupes armés. Par rapport à cette même opération militaire, il n'y a pas d'unanimité du Danemark à l'Italie, qui sont les partenaires de la France, soit sur le volet diplomatique, soit sur le volet défense, soit sur le volet développement. On n'arrivera jamais à arriver à une véritable cohésion du côté européen, sans compter le fait que la Banque mondiale, la BAD, et voire l'Union européenne elle-même comme entité, continue à poursuivre des stratégies qui ne sont pas complètement contradictoires avec celles de la France, mais qui ne sont pas, et les difficultés du président Macron à constituer une force de relève à Barkhane avec des contingents européens le montre bien. Il n'y a pas du tout de véritable formation de coalition cohérente, que ce soit du côté des États africains bénéficiaires de l'appui français ou que ce soit de la part des puissances européennes ou des forces européennes ou des éléments d'appui institutionnel international qui pourrait accompagner la France soit dans un renforcement de sa position, soit dans un désengagement ou tout au moins un rétrécissement de son action aujourd'hui au Sahel.
Alors, il y a eu beaucoup de prises de position, notamment d'ONG, de chercheurs, qui critiquent ce qu'ils appellent la militarisation du Sahel et dont ils disent qu'elle n'a rien réglé sur le plan sécuritaire.
Il y a deux aspects que vous mentionnez, c'est celui des chercheurs et celui des populations. Les chercheurs sont relativement bien placés pour donner des conseils ou porter des jugements. La militarisation du Sahel qu'ils dénoncent ne fait que suivre l'échec du développement. C'est pas la militarisation qui empêche le développement, c'est parce que le développement, en particulier d'ailleurs souvent organisé, géré ou guidé par ces mêmes chercheurs, a été un terrible échec. Un terrible échec qu'on a pu toujours aux États, mais où en fait, à mon avis, les responsabilités sont partagées. Pour cette militarisation du Sahel, pour beaucoup de populations civiles, pour les milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école, pour ceux qui ne veulent pas circuler, elle est toute relative. Les 4000 soldats français, il n'y en a qu'une partie qui est véritablement déployée. Ils sont loin d'avoir une très grande visibilité, même si un certain nombre de leurs opérations sont des opérations qui ont pu avoir des effets sur les populations civiles qui ont pu en être victimes. Leurs opérations sont encore des opérations à l'échelle de 5 pays, ou de 4 ou 3, même si on rétrécit les véritables pays dans lesquels il y aura eu des opérations. Ça fait quand même une militarisation, encore une fois, à petite échelle par rapport à d'autres conflits comme l'Irak ou comme le Vietnam il y a très longtemps. Donc on n'est absolument pas dans des configurations qui sont comparables. Et encore une fois, cette militarisation est une question de point de vue. Ce qu'il faut bien se prendre en compte, c'est l'absence de présence militaire, que ce soit celle des forces nationales ou que ce soit celle des forces multinationales, dans des affrontements qui soient des affrontements décisifs. On a affaire à une guerre d'usure avec des opérations qui sont des opérations relativement limitées. Et avec jamais, en tout cas de la part, par exemple, de la MINUSMA, qui est la force des Nations Unies au Mali avec jamais d'engagement très offensif de ces forces des Nations Unies qui font d'une certaine façon acte de présence ou
de dissuasion, disons.
Qui se contentent de garder quelques camps et difficilement encore.
Alors justement, compte tenu de la situation politique complexe au Mali, puisque aujourd'hui ce sont les militaires qui dirigent le pays, compte tenu, vous l'avez dit, des perspectives de développement qui sont aujourd'hui assez peu probables, quelles sont les pistes pour stabiliser la situation durablement dans la région, en dehors du fait de maintenir une présence militaire qui, de toute façon, tôt ou tard, sera réduite, on l'a déjà vu avec la fin de l'opération Barkhane, voire même qui sera peut-être remise en cause par les pays eux-mêmes, puisque notamment au Mali, on a vu, alors peut-être aussi à l'instigation du gouvernement ou des militaires au pouvoir, qu'il y avait des slogans anti-français et une critique un petit peu de cette présence française dans le pays depuis 2013.
La transformation progressive de la situation de la présence des forces militaires et il y a déjà quelques indicateurs de ce qui va se passer, donc c'est pas des voies de sortie de crise que je vais évoquer, mais plutôt ce qui se dessine comme avenir immédiat ou comme situation qui pourrait évoluer et dans quelle direction cette situation pourrait évoluer pendant l'année qui commence. Ce que l'on voit déjà, et on en a beaucoup parlé lorsque ce convoi qui venait de Côte d'Ivoire a été bloqué à deux reprises à la fin de l'année dernière. Ce que l'on voit déjà, c'est que les bases initiales sur lesquelles l'armée française pensait mener sa guerre au Sahel, qui était Gao principalement, cette base initiale, elle a été abandonnée. Maintenant, l'armée française cherche un point de positionnement qui n'est pas encore trouvé, mais son sanctuaire est bien loin du terrain d'opération, c'est Abidjan. Donc le convoi dont je parlais, qui a été bloqué à deux reprises par des manifestations, voire ensuite par des affrontements qui ont fait des morts. Ce convoi venait d'Abidjan et retournait à Abidjan. Donc on est vraiment dans un redéploiement du dispositif et avec une tentation de déplacer la ligne du sanctuaire qui serait protégé par les forces françaises bien en dessous du Nord-Mali, avec le souci d'éviter une propagation de l'action des groupes armés vers le golfe du Bénin et donc vers trois pays, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, qui ont déjà été tous les trois d'ailleurs victimes d'attaques de ces groupes armés. Deuxième, configuration qui se dessine, c'est, puisque je viens de parler d'un désengagement de Gao, c'est que sur certains points, c'est l'armée malienne mieux équipée, puisqu'elle vient de faire des achats à la fois à la Russie et à la Chine de matériel militaire et d'équipement pour lesquels elle bénéficiera d'ailleurs de conseillers russes et de conseillers chinois, c'est la présence d'autres matériels, d'autres conseillers sur les fronts ou sur la partie du front sur lequel l'armée française ne sera plus présente. Ensuite, on a un acteur privé, une société militaire privée, russe, Wagner, qui est également présente au Mali et qui aura certaines actions à mener. Il y a des forces européennes qui vont se positionner sans doute au Niger. Je pense à l'Allemagne qui a déjà une base pas loin de Tawa et qui pourra y déployer des avions, soit des avions qui font du renseignement, soit des avions qui font du transport, soit des avions qui font également du ravitaillement logistique pour un certain nombre de forces, les forces maliennes, les forces nigériennes. Donc il y a d'autres acteurs qui vont arriver pour, je ne sais pas quel est le terme utilisé, soit pour concurrencer, soit pour compléter le dispositif français. Ensuite, de la part même des États, je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas de position commune, je parle des États africains, sahéliens, qui n'avaient pas une position commune en matière de défense, en matière de diplomatie. Il est certain qu'il y a deux grandes forces qui se dessinent comme fédération des groupes armés, même s'il y a de la sous-traitance et des affiliations. C'est Al-Qaïda et l'État islamique au Maghreb, qui en fait maintenant est l'État islamique au Sahel. Donc ces deux grandes fédérations de groupes armés ont des possibilités de négociations temporaires de façon à consolider leur position, parce que ces deux fédérations de groupes armés s'opposent, et certains États ont déjà commencé des discussions pour une forme de paix séparée et transitoire avec une de ces deux fédérations. Donc ça va certainement aussi modifier un peu la teneur des affrontements, les lieux des affrontements. Et enfin, troisième situation qui est plus difficile à dessiner, c'est qu'est-ce qui va en être des conflits internes qui n'impliquent pas directement ces deux groupes de forces armées, Al-Qaïda et l'État islamique, mais qui sont nés d'une certaine façon des conflits locaux ou régionaux issus de la déstabilisation provoquée par ces groupes armés. Je pense à tous les conflits dans le centre du Mali entre pasteurs et sédentaires, entre Dogon et Peul, entre Peul et Bambara, enfin, tous les conflits qui sont des conflits à la fois liés au mode de production, au mode d'organisation sociale, au réseau ethnique, etc., qui sont des conflits où les États comme les forces internationales, quelles qu'elles soient, ont relativement peu d'impact. Et il semble donc que les éléments qui subsisteront de la force Barkhane et de la force Takuba, qui est une force en principe européenne, mais qui est très très lente à se mobiliser, se concentreront sur une zone qu'on appelle la zone des trois frontières, et qui concerne principalement le Mali et le Niger pour l'instant, et c'est là qu'il y a les attaques les plus intenses et les plus déstabilisantes pour les populations comme pour les forces armées de ces deux pays, mais en sachant aussi que les négociations qui ont lieu avec soit Al-Qaïda, soit avec l'État islamique, modifieront aussi l'intensité et également les modes opératoires dans cette zone des trois frontières.
Merci Olivier Vallée pour avoir fait ce point très complet sur la situation au Sahel et en particulier sur la situation du Mali. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste du Sahel, auteur de nombreux articles, ouvrages, et on vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation dans cette émission consacrée au Sahel, année de tous les dangers. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.